Salon-Rente, les 6 et 7 novembre 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles. En partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Adaptimo sur Radio Imo.
Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo. Ça y est, on attaque la deuxième journée sur le Rent à la Porte de Versailles. On vous fait vivre deux jours intenses pour cette édition 2024. Vous le savez, le thème, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Je suis évidemment avec Sylvain Lévy-Valency. Bonjour, comment ça va?
Comment ça va, Bérénice?
Eh bien écoutez, en pleine forme, on a bien commencé la journée.
Ben moi, ça va bien parce que plus, ce serait de la gourmandise.
Ah, voilà. C'est bien quand vous dites ça. Bon, on a trois invités ce matin. C'est vrai qu'on ouvre le bal avec Nesten. Alors, Delphine Roussel, bonjour. Vous êtes présidente de Nesten.
Oui, bonjour à tous.
On a avec vous Romain Odano, directeur réseau.
Bonjour, Marie.
Bonjour. Et puis Cédric Leroux. Alors, vous êtes directeur des stratégies digitales pour Nesten. Alors, Delphine Roussel, donc, vous venez de prendre la présidence il n'y a pas longtemps. Mois de juillet, c'est ça. Comment ça se passe depuis que vous êtes arrivée?
Alors moi, je ne suis pas arrivée avec cette présidence.
Bien sûr, mais en tant que présidente.
Depuis que j'ai repris la présidence, j'ai la chance que Romain Odano nous a rejoint aussi au mois d'octobre pour structurer l'équipe de direction. Comment ça se passe? On était sur un marché tourmenté, ouais, qui repart bien depuis le mois d'avril. Donc ça, c'était plutôt sympathique pour nous, puisqu'on fait des performances supérieures à N-1. Et puis, on continue à structurer les services pour nos franchisés et on va plus loin. On apporte aussi beaucoup de solutions pour le client final.
Donc, ça repart depuis le mois d'avril, c'est-à-dire qu'il y a plus de compromis que l'année dernière?
Plus de compromis, des honoraires qui sont bien protégés par les agences, donc de belles performances pour nos agences.
Nesten, c'est combien d'agences, de franchisés?
405 agences ouvertes et 430 si on compte les projets en cours d'ouverture.
Dans toute la France,
Sur toute la France et aussi à l'international.
Où ça,
à l'international? Alors, nous sommes, et je vais vous demander de l'aide, nous sommes en Thaïlande, nous sommes à Miami.
Effectivement, en Thaïlande. Aux USA, à Miami, on est implanté au Portugal et on a une stratégie aussi de développement sur ce pays-là. On va être implanté, alors on parle d'international, on peut parler globalement de hors France métropolitaine, dans les DOM et dans les TOM également.
Bien
on
sûr.
Est présent à l'île Maurice avec 5 agences immobilières. On est le réseau français, le réseau tout court le plus représenté, oui, à l'île Maurice notamment.
Et alors, c'est intéressant ça, parce que bon, on sait que la crise de l'immobilier a touché également les États-Unis. Ils ont vécu plus ou moins à une échelle un peu plus grande,
un peu plus forte que nous,
pour les taux, etc.
Des taux d'intérêt.
Avec la Fed. Comment ça se passe en Thaïlande, par exemple? Est-ce que, parce qu'on dit que l'immobilier a touché l'Europe, la crise de l'immobilier a touché l'Europe, a touché outre-Atlantique. En Thaïlande, comment ça se passe en Asie?
En Thaïlande, c'est spécifique parce que la franchise qu'on a ouverte en Thaïlande vise essentiellement une clientèle francophone. Donc, de façon générale, quand on a une crise financière, ah oui, qui se déroule en France, on a
ça
moins d'investissement également,
oui,
à l'étranger. Le marché thaïlandais aujourd'hui, je ne vais pas vous dire qu'à Bangkok notamment, là où on est implanté, nos franchisés ne travaillent pas du tout avec les Thaïlandais, mais ils travaillent plutôt avec une clientèle étrangère.
D'accord.
Donc le marché se maintient avec des clients qui sont des clients fortunés,
oui,
sur des villes comme Phuket, sur des îles, comme Koh Lanta, comme Koh Phi, Koh Samui. Mm-hmm. Et le marché sur Bangkok aujourd'hui est un petit peu plus complexe par rapport justement à cette absence, ouais, de...
C'est vrai que Koh Samui, c'est une des îles dans laquelle il y a une plus forte proportion de la communauté française,
ouais,
avec 7000 Français uniquement sur l'île de Koh Samui.
Oui, tout à fait. Et puis,
beaucoup de retraités d'ailleurs qui envisagent de s'installer là-bas.
Bien sûr.
Puisque le niveau de vie est très intéressant.
La nourriture est très bonne.
À tout point de vue. Et une qualité de soins absolument exceptionnelle.
Et ça répond à notre stratégie d'implantation à l'étranger. On ne parlera,
ouais,
pas évidemment que de ça, mais la stratégie d'implantation à l'étranger Nesten, c'est être présent dans des pays,
ouais,
dans des endroits, pour être plus clair, où on a de l'investissement français.
Oui, mais c'est ça, c'est toutes les villes, mmh, que vous avez citées.
Exactement.
Lisbonne, c'est pareil.
Imoris,
c'est le même système.
Imoris avec une encablure 25 minutes d'avion de La Réunion. Mais vous avez aussi des zones comme le Québec francophone. Est-ce que le Québec, par exemple, typiquement, c'est une zone sur laquelle vous vous êtes implanté ou vous souhaiteriez vous implanter?
C'est une zone sur laquelle on pourrait l'être, mais on n'a pas de stratégie définie au Québec.
D'accord.
Aujourd'hui, on a une stratégie d'opportunité sur l'ouverture de ces pays.
En fait, vous suivez vos clients,
exactement,
les demandes de vos clients, quoi.
On suit les demandes des clients, mmh, et on suit les opportunités d'implantation de franchise dans des,
d'accord,
pays dans lesquels on peut se sentir légitime et dans des pays dans lesquels notre stratégie d'accompagnement client peut avoir un sens.
Mmh. Dubaï, vous y avez pensé?
Dubaï, on y pense.
Ouais.
On y pense très sérieusement.
Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui investissent à Dubaï.
Ouais,
je pense que sans tout dévoiler, d'ici 6 mois, on devrait être installé à Dubaï.
Ah bah voilà, vous voyez, je suis clairvoyante.
Ouais,
un petit mot peut-être alors avec vous, Cédric, donc le directeur des stratégies digitales. Bon, c'est le salon, hein, c'est votre salon, la PropTech. Qu'en est-il justement de la stratégie digitale de Nesten?
Alors Nesten a une stratégie digitale orientée autour du client final et autour de l'agent immobilier, c'est-à-dire que on n'oublie pas, l'un va pas sans l'autre.
Oui.
Donc déjà au niveau du site web et tout ce qui est communication que les agences font auprès de leurs clients, on essaye d'être omniprésent par de l'actualité, par de suivi, par le parcours client qui est retravaillé et qui va s'intensifier dans l'année 2025. Et ensuite, autour des outils pour les agents immobiliers, on voit qu'aujourd'hui, dans le salon, on a de plus en plus de solutions autour de l'IA et on essaye de les accompagner au mieux pour qu'ils appréhendent ces technologies qui, pour eux, sont loin de leur quotidien.
Donc un parcours client digitalisé, en fait.
Oui.
C'est-à-dire que ça commence dès la recherche pour les hackers, par exemple.
Pour moi, c'est dès le premier contact avec le client, que ce soit sur Internet, en agence, jusqu'à ce qu'il soit vraiment client de l'agence où il y a un contrat de signé avec lui. Et on a tout un process de suivi déjà en place sur cette partie-là. Mais entre la phase de conquête client, là, on a vraiment encore beaucoup de choses à faire pour bien suivre et accompagner le client.
Mmh. Et alors, justement, qu'est-ce que vous venez chercher? Vous avez un stand sur le Rent?
Non, on n'a pas de stand. On a un atelier à 14h15.
Voilà. Alors, parce que là, vous promenez, j'imagine que peut-être que vous recherchez des pépites.
Le travail sur ces deux journées, c'est d'aller rencontrer les nouveaux intervenants dans le domaine, vérifier si cette solution apporterait quelque chose soit à nos clients, soit à nos franchisés. Et puis après, Cédric fait l'enquête traditionnelle sur les nouvelles solutions pour vérifier comment on peut la mettre en place pour nos agences Nestel.
Et alors,
il y a combien de personnes dans le réseau aujourd'hui ?
On a un petit peu plus de 2000 personnes dans le réseau aujourd'hui.
2000 personnes dans le réseau. Est-ce que vous partagez cette idée qu'effectivement l'agent immobilier doit flécher plusieurs sources de revenus dans une agence ? Faire de la gestion, par exemple.
Ah oui, alors la diversification d'activités chez Nestel, c'est vraiment dans notre ADN. Hein. C'est-à-dire que la majorité de nos agences proposent des solutions en matière de gestion, quelques-unes en matière de syndic.
Ah oui, il y en a qui font du syndic.
Il y a quelques-unes, on en a une dizaine qui font du syndic. D'accord. Et sinon, on peut s'appuyer évidemment sur notre partenariat avec
Citi. Est-ce qu'ils l'administrent eux-mêmes ou vous avez mis en place un système de gestion mutualisé?
Alors, je dirais 50-50. On a 50% de nos agences qui ont un département d'administration de biens au sein de leur structure, intégré. Et 50% qui travaillent avec une solution
externe. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité forcément de gérer les lots et donc c'est pratique d'avoir une solution alternative pour eux.
Oui. Ben c'est surtout très pertinent en phase de lancement.
Bien sûr.
En fait, on sait très bien que l'administration de biens n'est rentable. En tout cas, on atteint notre point d'équilibre avec une centaine de lots.
Oui,
on rentre 25
sûr,
à 30
ouais.
nouveaux
ouais.
lots par an.
Bien
donc
sûr.
Pendant les 2-3 premières années, c'est bien de s'appuyer sur une solution de nourrice. Okay.
Est-ce que les solutions de financement également entrent en ligne de compte?
Bien sûr.
L'assurance, le financement. Donc finalement, si on devait définir aujourd'hui le nouveau prototype, parce qu'on en parle beaucoup ici, et à l'instar d'une crise qui a durement frappé les agents immobiliers, on a vu que quand on est en transaction, par exemple, on met des compteurs à zéro tous les mois et que du coup, flécher les revenus un peu contracyclique lorsqu'on a des crises qui parfois altèrent le revenu, c'est une stratégie qui est bonne pour le franchiseur.
Ah, mais c'est une stratégie qui est bonne pour le franchiseur et bonne surtout pour le franchisé, puisque lui, dès lors qu'il a des ressources, on va dire, régulières qui lui permettent de couvrir son point mort, il est dans une situation de confort, quelle que soit la crise.
Alors, est-ce que cette stratégie que vous avez mise en place, elle a réduit l'impact de la crise sur votre réseau ou pas?
Je pense qu'elle a permis effectivement de réduire très fortement l'impact sur le réseau et sur la situation financière de nos franchisés.
Et justement, vous avez perdu des franchisés pendant la crise comme...
On ne va pas se mentir, évidemment,
comme
on a eu quelques agences qui étaient un petit peu plus fragiles que d'autres. On a perdu quelques agences, on a ouvert en comparaison aussi d'autres agences. Donc on va dire qu'on a perdu une vingtaine d'agences en net.
D'accord.
Mais le delta pour vous est quand même en croissance, puisque j'ai regardé vos chiffres, vous êtes toujours en croissance. C'est intéressant parce que aujourd'hui, on a plusieurs réseaux immobiliers de distribution, dont une partie sont des réseaux intégrés, d'autres parties sont des réseaux coopératifs et des réseaux de franchise. Donc on a une représentation globale du marché. On voit bien finalement que pendant les 15 dernières années, on a rasé gratis tous les jours. Parce que c'est un peu open bar quand même pendant quelques années, avec des taux d'intérêt absolument incroyables. Est-ce que l'atterrissage 2024, par exemple, où on sait qu'on sera entre 750 et 780 000 transactions, in fine, ça vous paraît un chiffre plutôt, finalement, une crête un peu comme celle qu'on a connue dans les années précédentes, en se disant finalement c'est un peu un retour à la normale. Moi, j'exagère un peu, mais c'est...
Vous savez, on parle depuis tout à l'heure de crise et de l'évolution du marché. On a parlé de la stratégie client, de la stratégie Nestel, de la diversification. Le métier, il en a connu beaucoup de crises, beaucoup. Depuis les années 90, il en connaît une tous les 6 ans, globalement, plus ou moins fort.
C'est des cycles, quoi.
C'est un métier très cyclique.
Celle-ci, elle est particulière parce qu'elle a été d'une violence.
Elle est particulière parce qu'elle vient d'une crise du financement, au départ. Et c'est ça qui est particulier. La stratégie de Nestel, dès le départ, la diversification, n'est pas venue en temps de crise. Ça, c'est important. La stratégie
de métier, c'était une stratégie.
Nous, on parle de la volonté client. C'est-à-dire qu'on part du parcours client, on souhaite toucher le client dans l'intégralité de sa vie immobilière, et c'est pour ça qu'on s'attache de plus en plus aux jeunes générations également, à la location, à la colocation.
Vous êtes dans la maîtrise de l'usage.
On est dans la maîtrise totale de l'usage. On souhaite être dans la maîtrise totale, on est dans la maîtrise en tout cas d'un parcours client et de la diversification métier qui permettra à nos clients d'être suffisamment suivis par une agence Nesten pour y conserver leur achat, leurs investissements, leur location, l'intégralité de la vie immobilière. Donc, en période de crise, on réagit effectivement plutôt bien parce qu'on a des franchisés qui se sont diversifiés. Maintenant, on a vécu une crise. Oui, il y a moins de transactions immobilières. Est-ce qu'on est retour à la normale? Je trouve que c'est un peu simpliste parfois de parler de retour à la normale quand on passe violemment en deux ans d'1 200 000 transactions à 750 000. Ce n'est pas forcément un retour à la normale. Est-ce que c'était souhaité? Pas volontaire non plus. Maintenant, le rythme classique de transactions en France, il devrait être entre 800 et 880 000, on va dire, avec une médiane autour de 850 000 transactions. C'est ce qu'on vise à avoir en 2025. Et là, on reviendra sur un rythme classique. Mais le rythme classique, c'est celui de l'année, finalement. On savait très bien qu'au moment du déconfinement et jusqu'à 2022, quand il y avait une surconsommation d'immobilier, le cycle
une politique de taux qui était extrêmement attractive. L'argent coûtait rien. On était sur des taux négatifs d'ailleurs pour certains.
Et donc
il y a eu une bulle qui s'est créée, bien évidemment. Et donc est-ce que vous observez par exemple que les comportements des primo-accédants étaient plus axés sur l'idée de faire la culbute ou de la plus-value plutôt que d'acheter un toit et une maison?
Parce que pas forcément.
Est-ce que c'était devenu un outil de spéculation?
Mais on peut le dire comme ça.
Je pense que les primo-accédants ont saisi une opportunité. Le primo-accédant, ce qu'il veut, c'est acheter. La volonté d'acheter, c'est une volonté française. Les Français ont toujours une passion de l'immobilier et on a, dans le caractère français, cette envie d'avoir un toit, ce qui est très légitime d'ailleurs. Oui. Donc quand on peut être financé, et à l'époque, effectivement, financé sans apport et à des taux, parfois, vous l'avez dit, négatifs, bien sûr qu'on est financé. Je ne pense pas que ce soit dans une logique d'investissement, en tout cas,
spéculative.
Si elle n'est pas patrimoniale. Ce n'est pas dans une logique spéculative. Maintenant, on a connu, peut-être, une certaine spéculation sur certaines villes qui s'est aujourd'hui calmée. Il y a eu une bulle, oui, et à la fois, elle a profité aussi à l'entièreté du marché, elle a profité à l'ensemble des acteurs immobiliers. Finalement, aujourd'hui, on va revenir vers un rythme classique. Est-ce que 750 000 transactions, c'est peu? Oui. Est-ce qu'on l'a vu venir? Oui aussi.
Alors, pas si peu que ça, puisque quand on y réfléchit bien, vous avez un marché colossal, vous tous. Et c'est la part de marché du particulier. Parce que finalement...
Et qui diminue d'ailleurs.
Non mais attendez. Delphine, qu'on se connaît depuis quelques années, on a connu la part de marché qui était majoritaire des particuliers. Et on a vu s'inverser la part de marché des professionnels. L'État nous a beaucoup aidé avec la norme et la complexité de la distribution. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, le gisement, c'est pas la conquête des réseaux concurrents, entre guillemets, ou des réseaux confrères. C'est le particulier. Est-ce que là, justement, vous qui êtes spécialiste de cette démarche de la maîtrise du parcours résidentiel et des besoins des investisseurs, des primo-accédants, des secondo-accédants, est-ce que vous avez défini une stratégie de conquête sur le particulier? Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire aux particuliers qu'ils trouvent encore pas utile d'utiliser le service de l'agent immobilier?
Vous savez, déjà, c'est amusant de se dire qu'en 15 ans, et avec l'émergence et la démocratisation de toutes les technologies, et notamment d'Internet, la part du marché du particulier
a baissé. Elle est réduite. De 10%.
Et ouais, de 10%. Donc c'est relativement... Je pense que c'est un réflexe assez classique. Aujourd'hui, les gens ont une contrainte de temps. Et l'agent immobilier leur apporte déjà un confort, une sécurisation, mais aussi...
Un gain de temps certain.
On court tous après le temps. Donc je pense que c'est une logique dans la consommation et qui va s'intensifier parce qu'au plus ça va, au moins on a de temps. Vous l'avez dit tout à l'heure, les normes et les contraintes existent, se renforcent avec notamment...
Mais elles vous ont aidé finalement, si on y réfléchit.
Elles nous ont aidé parce qu'on a su se former et parce qu'on a su former l'ensemble des franchisés, absolument, des professionnels qu'on est. Et ce que je dirais aux particuliers qui souhaitent aujourd'hui encore traiter par défiance vis-à-vis des agents immobiliers, c'est leur poser la question de pourquoi. Et souvent, ça touche à la rémunération de l'agent immobilier. Il faut simplement être capable d'expliquer et de justifier la qualité de notre travail. C'est aussi simple que ça. Si on arrive à justifier la qualité de notre travail, vous avez des honoraires moyens.
C'est un problème de qualité, en fait.
C'est un problème. Je pense que la profession, de perception de la qualité, je pense que la profession aussi a progressé, tout simplement, au fur et à mesure
Vous avez mis le point de raison. L'avantage, c'est qu'effectivement, on parle sans tabou. On est sans langue de bois. À peine entré sur le totem, déjà sorti le produit dans les 24 heures. Bon, déjà, les acquéreurs, on s'en occupait pas terrible, très bien, mais en plus, on s'en est encore moins occupé lorsque c'était open bar, bien évidemment. Je trouve ça extrêmement intéressant de se dire aujourd'hui, il faudrait peut-être que je travaille plus le petit acquéreur, la découverte de l'acquéreur, qui était un peu le fondement de
notre... Ça fait deux ans qu'on travaille sur l'acquéreur, puisque voilà. Justement, le marché s'étant inversé, on s'est dit que l'époque où on venait nous acheter un bien n'était plus là, et que c'était un moment où on devait accompagner encore mieux l'acquéreur. Et je trouve ça extraordinaire de mieux accompagner l'acquéreur, parce que ça permet d'avoir une relation
stable, c'est le fondement du métier.
C'est le fondement. On est des intermédiaires. On fait de l'intermédiation. Donc on est là pour faire entendre les intérêts d'un vendeur et les intérêts d'un acquéreur. C'est pour ça que l'agent immobilier existe, tout simplement. Et c'est vrai que depuis deux ans, nous, on a travaillé un parcours acquéreur tout à fait nouveau. On a un pack d'engagement vis-à-vis de l'acquéreur et une possibilité de déposer une recherche en ligne sur notre site internet. Et évidemment, on a aussi mis en place des formations dédiées à nos conseillers immobiliers pour comprendre que l'acquéreur, sans acquéreur, il n'y a pas de vente.
Bien
donc
sûr.
C'est primordial de savoir aussi accompagner l'acquéreur. Puis l'acquéreur d'aujourd'hui, c'est notre vendeur de demain.
Exactement.
C'est notre investisseur.
Et vous arrivez à avoir des outils justement en digital de tracking de vos clients pour les réemplois, par exemple, ceux qui mutent. On sait qu'en moyenne, la détention, même en privé de session, elle est entre 7 et 9 ans, grosso modo. Est-ce que vous arrivez à traquer ? Est-ce que dans la même logique, finalement, du parcours avec les outils d'aujourd'hui ? Tout ça, ça doit vous aider considérablement.
Alors aujourd'hui, on a tous les outils pour le faire. Maintenant, après, il faut réussir à sensibiliser l'ensemble des professionnels à
utiliser les outils. Oui. Et ça, c'est facile ou pas ?
Ça reste des outils accessibles, ouais. Des outils qu'on vulgarise de plus en plus pour l'agent immobilier grâce à nos solutions digitales internes. Et on arrive vraiment à les mettre dans un cocon en se disant voilà quel est l'intérêt final d'utiliser ces outils, comment les utiliser. Et on convainc de plus en plus les franchisés à le faire.
Est-ce que l'agent immobilier versus... j'anime une conférence tout à l'heure qui s'appelle « Retour aux fondamentaux ». Un monde sans IA. Alors, moi, je dis souvent IA ou il n'y a pas, ça dépend. Mais l'idée, c'est de se dire, le fondamental, c'est quoi ? Rien ne remplacera la poignée de main de l'agent immobilier ou de l'intermédiation.
On est parfaitement d'accord.
Donc, même quand les mandataires sont arrivés, on a dit, je ne sais pas si tu te rappelles, on disait, oui, ça y est, c'est la mort des agences vitrées. Les panneaux vont tomber comme neige. Bon, pas du tout.
C'est un peu la même thématique que notre atelier aussi à 14h.
Justement, alors, on terminera avec l'atelier, oui. Parce qu'on doit conclure.
J'ai quand même une question à poser.
On finira avec l'atelier après.
Alors, la question est très simple. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est un marché contracyclique qui pose question sur le profil et des agents immobiliers. On a souvent cherché des agents immobiliers dans lesquels on s'est dit, tiens, le gars qui était vendeur de voitures, qui avait une concession, qui avait une agence de voyage, c'est un profil de reconversion idéal pour un panneau de franchise, par exemple, et de se dire, je vais me lancer dans un nouveau projet, etc. On revient finalement à quelque chose d'un peu plus médian, dans l'idée finalement du parcours académique. Et notamment, j'observe, par exemple, j'ai regardé, j'étais assez étonné, que des personnes qui ont suivi, par exemple, le Master 246 de Dauphine, devenez agent immobilier. J'ai vu que le master immobilier déploiement durable de l'ESSEC également. Moi, j'ai envie de vous poser cette question. Moi, je fais déjà partie du passé, mais est-ce que cette génération qui arrive, finalement, vous, votre génération à vous, parce que je pense que vous êtes plus jeune que moi, vous incarnez finalement cette nouvelle génération. Et je trouve ça extrêmement simple parce que je pense que le profil académique que vous avez aujourd'hui est nettement supérieur au niveau que nous avions à l'époque.
Je pense effectivement qu'il y a une nouvelle génération d'agents immobiliers qui arrive, qui n'est pas issue des mêmes formations, tout à fait. Maintenant, c'est un profil mixte, le profil d'un agent immobilier. C'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité de comprendre ce qu'on voit aujourd'hui au salon, et avoir la capacité, comme Cédric le soulignait, de les mettre en application. Donc bien sûr qu'il faut savoir se sortir d'une zone de confort pour aller chercher de nouvelles informations, être capable de voir l'intérêt de ces nouvelles informations. Donc oui, il y a une nouvelle génération d'agents immobiliers. Maintenant, on le disait tout à l'heure, et vous parliez des fondamentaux et des basiques, il faut quand même une approche commerciale. C'est-à-dire que nous, dans les profils qu'on recherche aujourd'hui, dans les profils qui viennent rejoindre la franchise, on a des profils extrêmement variés. On a des réussites qui sont extrêmement variées également. Ces profils, pour réussir, il faut qu'ils soient en maîtrise de nos outils. Donc il faut bien sûr qu'ils les assimilent, mais il faut qu'ils restent quand même éminemment commerciaux. Il faut qu'ils restent éminemment humains, parce que c'est un métier extrêmement humain qui demande beaucoup d'empathie. Et les qualités fondamentales d'un agent immobilier, pour moi, n'ont pas changé. C'est l'appétence à toute cette digitalisation et l'appétence à une certaine modernisation du métier, une compréhension des nouvelles normes qui fera sans doute la différence, mais qui ne remplacera jamais l'humanisation, si je peux dire, de la relation client.
Très bien. Alors, on va terminer justement avec l'atelier à 14h, hein, c'est ça ?
14h15, oui.
14h15. Alors, le sujet, ce sera...
Le sujet, c'est l'authenticité face à la montée en puissance de l'intelligence artificielle.
Eh bien, justement, on est en plein dedans. Donc, le côté humain face aux outils.
Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut mettre tous les outils digitaux en place, tous les parcours. Vous l'avez dit tout à l'heure, la part de marché du particulier ne progresse pas. Et tout ça, c'est parce qu'on arrive à, on va dire, à faire monter en compétence les agents immobiliers sur l'utilisation des outils, des réseaux sociaux pour bien communiquer, tout en se faisant aider, accompagner de ces outils digitaux.
Donc c'est un soutien aux agents immobiliers. Eh bien, merci infiniment à vous quatre. Merci beaucoup pour cette table ronde très instructive. Et puis, on se retrouve tout de suite pour un prochain plateau. Je crois que c'est Romain Cartier qui sera avec nous.
L'excellent Romain.
Oui, l'excellent. Dans quelques instants sur Radio Immo. Je vous rappelle qu'on est en direct du Rent jusqu'à ce soir. À très vite.
Le Salon Rent, les 6 et 7 novembre 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles. En partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Adaptimo sur Radio Immo.